Chapitre 14. La relation des disciples avec le Seigneur, le Père et le Saint-Esprit. Les scènes solennelles et les paroles sérieuses du chapitre 13 constituent un prélude approprié au grand développement du chapitre 14. Au chapitre 13, nous avons la mise en lumière de la corruption totale de la chair, que ce soit dans un faux disciple ou dans un vrai. En Judas, la chair préfère quelques misérables pièces d'argent au Fils de Dieu, puis elle trahira de la manière la plus vile le Seigneur en se servant du signe de l'amour. En Pierre, nous apprenons que la chair dans un croyant peut chercher à se donner du crédit en professant l'amour et la consécration pour Christ. L'homme dans la chair n'est que de l'argile entre les mains du diable, et la chair non jugée dans un saint un instrument à sa disposition. La découverte d'un mal insoupçonné dans le cercle des douze, la perspective de la grande perte qu'ils allaient éprouver, l'annonce du reniement tout proche, jette un voile de tristesse sur le petit groupe. Un des leurs, sur le point de trahir le Seigneur, est sorti dans la nuit. Le Seigneur s'en va là où ils ne peuvent le suivre. Pierre est prêt de renier son maître. Le chagrin, voire le désarroi, pèse sur les cœurs troublés des disciples, alors que l'ombre accablante des événements imminents se projette sur eux. Pierre, si ardent jusqu'ici, reste silencieux. Durant ces derniers entretiens, nous n'entendrons plus sa voix. Pour le moment, tous demeurent muets, en présence de la révélation du départ prochain du Seigneur, de la trahison toute proche de Judas et du reniement imminent de Pierre. C'est alors que nous entendons le Seigneur rompre le silence par ces paroles touchantes « Que votre cœur ne soit pas troublé ». Ce message d'encouragement et de consolation a dû être un baume pour ces cœurs affligés. Mais, bien que le Seigneur s'adresse aux onze, souvenons-nous, comme quelqu'un l'a dit, que l'auditoire est beaucoup plus nombreux qu'il n'apparaît. Au premier plan, il y a les onze. Derrière eux, l'Église universelle. Ceux qui sont présents sont des hommes comme nous, mais ils sont des types, chers en eux-mêmes au cœur du Seigneur, comme le montrent ses paroles pleines de tendresse, précieux aussi à ses yeux, en tant que représentants tous ceux qui croiraient en lui par leurs paroles. Ce magnifique discours apporte avant tout le réconfort et la consolation à des cœurs troublés. Il commence par cet encouragement plein de douceur « Que votre cœur ne soit pas troublé ». Et lorsqu'il touche à sa fin, nous entendons de nouveau ces mots « Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif ». Pourtant, le Seigneur n'avait certainement pas en vue les soucis de la vie quotidienne, malgré l'apaisement que ces paroles pleines de tendresse pouvaient y apporter. Il pensait à l'anxiété que faisait naître dans les cœurs le départ de celui qui avait gagné leurs affections par son amour infini. Un peu plus tard, le Seigneur dira « Maintenant, je m'en vais. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » C'était le trouble de cœur qui avait été tellement attiré à Christ qu'ils étaient heureux dans sa présence et affligés en son absence. Être laissé dans un monde mauvais d'où Christ est absent est une douloureuse épreuve pour le cœur qu'il aime. En réponse à ce trouble particulier, le Seigneur veut nous élever au-dessus du péché des hommes et du manquement des saints, dans la compagnie des personnes divines. Par la foi, il veut nous unir à lui dans la place nouvelle où il est allé, il veut nous mettre en relation avec le Père dans le ciel et nous placer sous le contrôle du Saint-Esprit sur la terre. Pour que nos cœurs soient consolés, nous sommes mis en relation avec chacune des personnes divines. Le Fils, versets 1 à 3, le Père, versets 4 à 14, et le Saint-Esprit, versets 15 à 26. Au cours de ces entretiens, nous trouverons des exhortations à porter du fruit et à rendre témoignage dans un monde dont nous ne pouvons attendre, nous en sommes prévenus, que de la haine, de la persécution et de la tribulation. Avant toutefois d'être appelés à rencontrer l'opposition du monde extérieur, nous sommes introduits dans la communion avec les personnes divines, dans une scène d'intimité. la sainte communion de la maison nous prépare à faire face aux épreuves du monde extérieur. Versets 1 à 3. La relation des disciples avec Christ. Citation de l'Écriture. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Fin de citation. Le chapitre commence par ces mots tendres et touchants, « Que votre cœur ne soit pas troublé ». Qui, sinon le Seigneur, aurait pu prononcer des paroles empreintes d'une telle grâce à un moment aussi solennel? Il venait d'annoncer le triple reniement de Pierre et, de même que cet avertissement a été précédé par la déclaration imprégnée de grâce « Tu me suivras plus tard », il est suivi par ces mots pleins de douceur « Que votre cœur ne soit pas troublé ». Avec la trahison de Judas et le reniement de Pierre devant eux, les disciples avaient bien des raisons d'être troublés. Pourtant, le Seigneur dit « Que votre cœur ne soit pas troublé ». Dans le début de l'entretien, le Seigneur recourt à trois moyens pour dissiper le trouble de nos cœurs. D'abord, il se présente lui-même devant nous comme objet de foi dans la gloire. Vous croyez en Dieu, que vous n'avez jamais vu. Et maintenant, le Seigneur qui va disparaître de leur vue pour entrer dans la gloire peut dire « Croyez aussi en moi ». Ainsi, Christ, comme homme dans la gloire, devient la ressource et le soutien du cœur. Tout sur la terre peut nous manquer, le monde peut nous tenter, la chair nous trahir, mais Christ, dans la gloire, reste le recours infaillible de la foi. Comme quelqu'un l'a dit, on ne saurait trouver de réconfort solide en dehors de Christ. Qu'il s'agisse des meilleurs amis chrétiens, des parents les plus aimants, de circonstances exceptionnellement favorables, d'une santé florissante ou de l'avenir le plus prometteur, rien de tout ce que nous avons sur la terre ne pourra donner de réconfort durable. Mais Christ, dans la gloire, demeure celui vers qui la foi peut se tourner et en qui elle trouve la ressource inaltérable des siens pendant la longue nuit sombre de son absence. Comme deuxième consolation pour nos cœurs, le Seigneur nous révèle la nouvelle demeure. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Non seulement nous avons Christ dans la gloire comme notre ressource infaillible, mais nous avons la maison du Père comme demeure permanente. Car remarquons que le mot « demeure » signifie en fait un « chez-soi » que nous ne quitterons plus jamais une fois que nous l'aurons atteint. Nous y demeurerons. Sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici-bas. Notre demeure est dans la maison du Père. En outre, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Sur la terre, il n'y a pas eu de place pour Christ, et il y en a peu pour ceux qui sont à Christ. Mais dans la maison du Père, il y a place pour tous ceux qui sont à Christ, grands et petits. S'il en était autrement, le Seigneur l'aurait dit à ses disciples. Il n'aurait pas rassemblé ses disciples autour de lui afin de les retirer de ce monde, si ce n'était pas pour les conduire dans une sphère de félicité qui lui était familière, la maison de son Père. C'est dans cette maison que le Seigneur allait. Sur la croix, il a préparé les siens pour cette place. Sa présence dans la gloire prépare la place pour les siens. Ainsi, nous sommes élevés au-dessus de la faiblesse et de l'insuffisance de tout ce qui appartient à la terre et transportés au-delà des scènes passagères du temps pour entrer en esprit dans un monde meilleur et y trouver une demeure préparée dans la maison du Père. Troisièmement, pour la consolation de notre cœur, le Seigneur place devant nous son retour pour nous prendre auprès de lui dans cette maison. En temps voulu, d'autres passages nous dévoileront l'ordre des événements en rapport avec sa venue, mais ici, pour notre consolation, la joie suprême de sa venue nous est donnée à connaître. Sa venue mettra en fait un terme à notre marche dans le désert. Elle guérira toutes les brèches parmi les enfants de Dieu. Elle rassemblera en un les saints divisés et disséminés. Elle mettra fin aux peines, aux épreuves et aux travaux des siens. Elle nous arrachera à une scène de ténèbres et de mort et nous introduira dans une demeure de lumière, de vie et d'amour. Sa venue fera tout cela, et plus encore, mais par-dessus tout, elle nous introduira dans la compagnie de Jésus. Comme il peut le dire, « Je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. » Que serait le ciel sans Jésus? Être dans une scène où la mort ne sera plus, et où il n'y aura plus ni deuil ni cri, où tout est sainteté et perfection, sera précieux, certes, mais si Jésus n'y était pas, le cœur demeurerait insatisfait. Le bonheur suprême que nous apporte sa venue, c'est que nous serons avec lui. Il aura été avec nous, dans ce monde de ténèbres et de mort, et nous serons avec lui, dans la demeure éternelle de la vie, la maison du Père. Par ces paroles qui révèlent l'aspect le plus élevé de sa venue, le Seigneur nous découvre les désirs secrets de son cœur, avoir les siens avec lui pour la joie et la satisfaction de son propre cœur. Il désire notre compagnie. Il est dans le ciel l'objet de notre foi. Nous sommes sur la terre les objets de son amour. Si notre trésor est dans le ciel, son trésor à lui est sur la terre. Christ lui-même s'en est allé, mais le cœur de Christ est ici-bas et, comme cela a été très justement dit, si son cœur est là, lui-même n'est pas bien loin. Quelle consolation pour nos cœurs troublés ces versets d'introduction ne renferment-ils pas? Christ dans la gloire, notre ressource infaillible, une maison dans la gloire qui nous attend, et un homme dans la gloire qui désire notre présence. Que la manière d'instruire du Seigneur est bénie et différente de la façon de faire des hommes. Dans les chapitres suivants, il va nous éclairer quant à notre voyage à travers ce monde et nous avertir des épreuves et des persécutions qui surviendront, mais d'abord et avant tout, il nous dévoile le but glorieux du voyage. Nous aurions réservé ces thèmes aussi élevés pour la fin de l'entretien. Il adopte un ordre différent et combien meilleur. Il ne veut pas nous laisser affronter le pèlerinage à travers un monde hostile avant d'avoir placé devant nos cœurs la demeure permanente avec lui dans la maison du Père. Il voudrait que nous considérions le voyage à la lumière de la maison vers laquelle il conduit. Le passage à travers la vallée est transformé, a dit quelqu'un, dès le moment où nous avons aperçu les collines au-delà. Pour notre consolation aussi, ces révélations merveilleuses du monde invisible sont placées devant nous en des termes simples et familiers. Des vérités d'une si grande élévation qu'elles peuvent bien donner le vertige à l'intelligence la plus grande, sont exposées en des termes si simples qu'ils sont à la portée d'un petit enfant qui croit en Jésus. Versets 4 à 14. La relation des disciples avec le Père. Citation de l'Écriture. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Fin de citation. Après avoir placé devant nous le terme du pèlerinage, le Seigneur peut nous montrer nos privilèges tandis que nous sommes en chemin. Dans les versets qui suivent, nous sommes mis en relation avec le Père. Bien que nous n'ayons pas encore atteint la maison du Père, nous avons le privilège de connaître le Père, celui à qui appartient la maison, avant d'y entrer. Et si nous sommes amenés à connaître dès maintenant le Père, c'est afin de pouvoir avoir accès auprès du Père pendant que nous traversons le monde. Le grand propos de cette partie du discours est de nous amener à connaître le Père, le voir et venir à lui. Venant ainsi au Père, nous pourrons alors, dans l'heureuse confiance d'enfant, lui présenter nos requêtes au nom de Christ. Le Seigneur introduit ce grand thème par la déclaration « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Occupé par une pensée très différente, Thomas ne saisit pas la signification des paroles du Seigneur. En réponse à sa question « Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» le Seigneur montre clairement qu'il parle de la personne auprès de laquelle il se rend, et non pas simplement d'un lieu, comme Thomas le suppose à tort. Christ est le chemin qui conduit à cette personne, le Père. Il est aussi celui en qui la vérité du Père est présentée. Il est encore la vie, dans laquelle la vérité du Père peut être goûtée. Enfin, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Aussi le Seigneur ajoute-t-il, « Nul ne vient au Père que par moi. » Parole d'une signification profondément solennelle en un jour où les hommes rejettent les droits du Fils tout en parlant de Dieu comme Père. Les paroles du Seigneur anticipent les paroles inspirées de l'apôtre qui, plus tard, écrira « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » 1 Jean 2, verset 23. Il est vrai, d'autre part, que connaître le Fils, c'est connaître le Père. Aussi le Seigneur peut-il dire à ses disciples « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, comme Thomas, ne parvient pas à s'élever au-dessus de ce qui est concret. Thomas avait imaginé une place matérielle. Philippe pense à la vue physique et dit par conséquent « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Dans sa réponse, le Seigneur indique clairement qu'il parle de la vision de la foi. Il pose une question qui sonde le cœur. « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Puis il déclare « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Regarder au-delà de la forme extérieure et voir le Fils par la foi, c'est en réalité voir le Père, car le Fils est la révélation parfaite du Père. Le monde incrédule n'a pas discerné le Fils. Tout ce qu'il a vu, c'était quelqu'un qu'on disait être le fils de Joseph, le charpentier. Seule la foi était capable de voir dans cet homme humble le Fils unique venu pour faire connaître le Père. Celui qui était dans le sein du Père pouvait seul manifester le cœur du Père. Abraham a pu nous dire que Dieu est le Tout-Puissant. Moïse a pu nous apprendre que Dieu est le « Je suis », éternel et immuable. Mais ni Abraham ni Moïse n'étaient assez grands pour nous révéler le cœur du Père. Seule une personne divine est assez grande pour révéler une personne divine. Par conséquent, le Seigneur déclare immédiatement l'égalité et l'identité parfaite du Père et du Fils. Il peut dire « Moi, je suis dans le Père » et « Le Père est en moi ». Le passage du Fils dans ce monde n'est pas simplement une manifestation du Père et du Fils, mais bien plutôt du Père dans le Fils. Une fois que nous avons discerné par la foi la gloire du Fils, il est facile de voir le Père révélé dans le Fils. En vertu de ce qu'il est, en tant qu'égal au Père et identifié à lui, le Seigneur peut aussitôt présenter ses paroles et ses œuvres comme étant la révélation du Père. La grâce, l'amour, La sagesse et la puissance qui brillaient dans ses paroles et ses œuvres nous font connaître le cœur du Père. Mais de plus, si sur la terre le Fils avait glorifié le Père en révélant son cœur par ses paroles, combien davantage le Père serait glorifié par le Fils lorsque, prenant sa place en haut, il ferait encore connaître le cœur du Père par les œuvres plus grandes des disciples. Et, enfin, il glorifierait le Père en exaucant les requêtes adressées au Père au nom de Christ. À ce point de l'entretien, le Seigneur cesse de parler des effets de ses paroles et de ses œuvres que les disciples avaient goûtées tandis qu'il était encore avec eux, et il se met à annoncer les effets nouveaux et plus profonds de sa puissance après son départ pour aller au Père. La transition est marquée par les mots « en vérité », mots utilisés en général pour introduire une vérité nouvelle. Le Seigneur révèle ainsi à ses disciples étonnés la vérité nouvelle qu'après son départ, celui qui croirait en lui ferait les œuvres que Jésus lui-même avait faites et, chose plus surprenante encore, ferait des œuvres plus grandes. Le Seigneur fait dépendre ce déploiement plus grand de puissance du fait qu'il s'en allait au Père. En retournant auprès du Père, il allait à la source de toute puissance et de toute bénédiction. Ainsi, par la présence de Christ auprès du Père, toutes les ressources du ciel seraient ouvertes à celui qui, sur la terre, croit en lui et prie en son nom. Ces versets de transition nous amènent à l'histoire de l'Église primitive lorsque, au lieu de quelques disciples seulement réunis sous le ministère de Jésus, des milliers étaient rassemblés par la prédication des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple. L'ombre de Pierre suffisait pour donner la guérison aux malades. Des morts étaient ressuscités, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même des mouchoirs portés de dessus son corps guérissaient ceux sur lesquels ils étaient placés. Cette grande puissance était à la portée de la foi, s'exprimant par la prière en son nom. Il a été dit très justement que les requêtes faites au nom d'un autre implique l'appropriation à soi-même de ses titres, de ses mérites et de ses droits à être entendu. Par ses paroles mêmes, le Seigneur confère ce privilège à ceux qui sont en relation avec lui par la foi. Demander au nom de Christ était quelque chose de nouveau pour les disciples et résultait, comme tout dans ses entretiens, du départ du Seigneur. En effet, demander en son nom suppose l'absence de Christ. L'expression « demander en mon nom » revient 5 fois dans ses entretiens. Ainsi, les paroles et les œuvres de Jésus sur la terre nous font découvrir le cœur du Père, et nous apprenons encore à connaître le Père au travers des œuvres plus grandes, faites par les disciples sous la direction du Seigneur depuis sa place en haut. Enfin, nous discernons l'amour du Père en voyant le Seigneur agir pour nous en réponse à nos demandes au Père au nom de Christ. Dans un monde qui s'est éloigné de Dieu, où tous cherchaient leur propre intérêt, il était toujours un avec le Père, en pensée, en propos et en affection, et il trouvait son plaisir dans la volonté du Père. Un monde de péché a fait de lui l'homme de douleur, mais il a trouvé un repos ininterrompu et une joie constante dans l'amour du Père. C'est dans cette même relation bénie avec le Père qu'il voudrait nous introduire, afin que nous aussi, nous trouvions notre plaisir, notre repos, notre joie dans l'amour du Père. Tout a été révélé dans le Fils, l'amour du cœur du Père, le propos de la pensée du Père, la grâce de la main du Père, tout a été manifesté en Christ, le Fils. Tout a aussi été révélé comme notre portion présente. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons pas une révélation du Père autre que celle que nous avons maintenant. Tout a été révélé sur la terre. La seule différence tiendra au fait que nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Toutefois, ce dont nous jouirons pleinement dans le ciel a été pleinement révélé sur la terre. Nous attendons que la gloire de la maison du Père soit dévoilée à nos yeux émerveillés, mais l'amour du cœur du Père a été révélé pour la joie de nos cœurs sur la terre, bien que, hélas, notre faible foi n'ait sans doute donné qu'une pauvre réponse à une telle révélation. Versets 15 à 31. La relation des disciples avec le Saint-Esprit. Citation de l'Écriture. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous. Partons d'ici. Fin de citation. Après avoir transporté les pensées des disciples au-delà du présent dans l'avenir proche, le Seigneur se met à dévoiler le second grand événement qui marquerait les jours à venir. Non seulement le Seigneur s'en allait au Père, mais le Saint-Esprit viendrait du Père. Le Seigneur prépare ainsi les disciples au changement important qui allait se produire. Le Fils va retourner auprès du Père pour occuper sa place comme homme dans la gloire. Le Saint-Esprit viendra faire son habitation dans les croyants comme personne divine sur la terre. Ces deux événements merveilleux devaient inaugurer le christianisme et amener l'Église à l'existence. Il devait soutenir l'Église durant son pèlerinage dans ce monde, la préserver du mal qui règne dans le monde, la maintenir en témoignage pour Christ, et enfin, présenter l'Église à Christ en gloire. Ici, toutefois, le Seigneur ne dévoile pas la grande doctrine de l'Église et de sa formation, ni en fait celle du témoignage que l'Église rendrait par l'Esprit. Le moment pour de telles révélations n'était pas encore venu. Le Seigneur a plutôt devant lui les expériences spirituelles profondes que feront les croyants à la suite de la venue de l'Esprit. C'était ce qui convenait à un tel moment. La pensée de perdre celui qui leur était si cher, dont la présence les avait réjouis, remplissait le cœur des disciples de tristesse. Aussi le Seigneur leur parle-t-il de la venue d'un autre consolateur, de quelqu'un qui non seulement dissiperait ce sentiment de solitude, mais qui conduirait leur cœur dans une connaissance de leur maître plus profonde et plus intime que dans les jours où il était parmi eux sur la terre. Ce sont ces expériences secrètes goûtées par l'Esprit qui prépareront les disciples à être des témoins pour Christ dans la puissance de l'Esprit. Ne pouvons-nous pas dire que la faiblesse souvent si grande de notre témoignage pour Christ provient de ce que nous jouissons bien peu de cette intimité personnelle avec Christ dans laquelle seul l'Esprit peut conduire. Nous cherchons à nous engager dans le service sans vivre dans le lieu secret de la communion avec le Père et avec le Fils par l'Esprit. C'est la révélation de ces expériences secrètes qui donne un tel prix à cette portion du dernier entretien. Il s'agit d'une scène intime. Le croyant y est introduit dans la compagnie des personnes divines afin qu'au temps propre, il puisse rendre témoignage à Christ au dehors, dans le monde que Christ a quitté. La manière dont le Seigneur introduit le grand thème de la venue du Saint-Esprit est bien frappante. Il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Dans le cours de l'Évangile selon Jean, nous avons entendu parler à maintes reprises de l'amour du Seigneur pour les disciples. Maintenant, pour la première fois, il s'agit de l'amour des disciples pour le Seigneur. Le don de l'Esprit se trouve ainsi en rapport avec un groupe de personnes qui aiment le Seigneur et lui obéissent. C'est pour une telle compagnie que le Seigneur se plaît à demander au Père de donner le Consolateur. En outre, ces paroles n'indiquent-elles pas que seul celui dont la vie est marquée par l'amour et l'obéissance envers le Seigneur peut connaître les expériences goûtées dans la puissance de l'Esprit? Dans les versets précédents, le Seigneur a parlé de foi et de prière, versets 12 à 14. Maintenant, il mentionne l'amour et l'obéissance. Il veut ainsi nous faire comprendre que les expériences spirituelles profondes dans lesquelles conduit le Consolateur sont la part des saints caractérisés par la foi qui croit au Seigneur, la dépendance qui prie en son nom, l'amour qui s'attache au Seigneur et l'obéissance qui se plaît à garder ses commandements. Voilà les grandes caractéristiques morales qui préparent l'âme à tirer profit de la présence de l'Esprit. Il ne suffit pas d'avoir l'Esprit demeurant avec nous. Il doit y avoir dans le cœur et dans la vie un état qui convienne à l'Esprit. Au commencement de l'Évangile, Jean-Baptiste a annoncé que le Seigneur baptiserait de l'Esprit-Saint. Plus tard, en relation avec la visite du Seigneur à Jérusalem, il nous est clairement dit que, sous la figure de l'eau vive, Jésus parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, et en outre que ce grand don n'était pas encore conféré parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, l'heure où le Seigneur va être glorifié est arrivée, et elle devient le moment qu'il choisit pour découvrir à ses disciples la grande vérité de la venue sur la terre de cette personne divine. D'une manière très bénie et qui répond parfaitement à la circonstance, le Seigneur parle du Saint-Esprit comme d'un consolateur. Parmi les activités grandes et variées de l'Esprit, c'est bien de la consolation que les disciples avaient particulièrement besoin à ce moment-là. Ce nom de consolateur comporte cependant une signification plus profonde qui peut facilement nous échapper, car selon l'acceptation moderne du mot, il s'applique principalement à quelqu'un qui sympathise avec nous dans nos peines. Dans son sens premier, il s'agit de quelqu'un qui se tient auprès d'une personne pour la fortifier, lui venir en aide et l'encourager. Ainsi, dans le Consolateur, les disciples auraient quelqu'un qui se tiendrait près d'eux pour les fortifier dans leur faiblesse et les consoler dans leur peine. De plus, le Seigneur parle du Saint-Esprit comme d'un autre consolateur, comparant ainsi celui qui allait venir avec lui-même. En effet, n'avait-il pas été avec eux pour les soutenir, les encourager et les consoler? Enfin, non seulement le Seigneur compare le consolateur avec lui-même, mais il établit un contraste. Le Seigneur n'avait été avec eux que quelques brèves années, tandis que le consolateur qui allait venir serait avec eux éternellement. De nombreux passages de l'Ancien Testament avaient parlé du Saint-Esprit venant sur certains hommes et prenant pour un temps le contrôle de leur être dans un but spécial. Mais qu'une personne divine vienne pour être là éternellement était quelque chose de tout à fait nouveau. Un autre contraste existe entre Christ et cette personne qui allait venir. Tandis que Christ est la vérité, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. En Christ, nous voyons la vérité présentée objectivement. L'Esprit de vérité que nous avons opère en nous pour nous faire saisir tout ce qui est présenté, en Christ. En contraste encore avec le Seigneur, l'Esprit est une personne que le monde ne peut pas recevoir ou connaître parce qu'il ne le voit pas. Christ était venu en chair. Il avait pu être vu des hommes et avait été ainsi présenté de manière à être reçu par eux. Le Saint-Esprit ne viendrait pas en chair, et il n'est pas présenté comme pouvant être vu physiquement ou connu intellectuellement. Pour le monde, il n'est pas une personne divine, mais, au plus, une influence imagée et vague. Pour les disciples, il sera non pas une simple influence, mais une personne qui sera avec eux, en contraste avec Christ qui allait les quitter. Il serait en eux, en contraste avec Christ qui était avec eux, mais non pas en eux. Après avoir parlé de la personne du Saint-Esprit, le Seigneur se met à développer, dans les versets 18 à 20, les effets normaux de sa présence dans le croyant. Le départ du Seigneur pour être auprès du Père et la venue de l'Esprit ne signifiaient pas qu'ils perdraient une personne divine et qu'ils en recevraient une autre. On a dit justement, ce n'est pas la promesse d'une substitution qui exclut la présence de Christ, mais d'un moyen qui l'assure. Aussi le Seigneur peut-il dire à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. » On a dit aussi, lorsque Christ était ici-bas sur la terre, le Père n'était pas bien loin. « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et si le Consolateur est là, Christ n'est pas bien loin. Si le verset 18 nous dit que la venue de l'Esprit nous fera éprouver la présence de Christ à nos côtés, les deux versets suivants développent les effets dans le croyant de cette présence de Christ. Le Seigneur les exprime dans ces trois déclarations « Vous me verrez, vous vivrez, vous connaîtrez ». Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même ou pour nous occuper de lui, ni pour qu'un culte lui soit rendu. Il vient pour conduire l'âme à Christ. Dans peu de temps, le monde ne verrait plus Christ, mais quand il aurait disparu de sa vue, il resterait pour le croyant l'objet de la foi dans la puissance de l'Esprit. Pour le monde, Christ ne serait plus qu'un personnage historique, ayant vécu une vie exemplaire et connu la mort d'un martyr. Pour les croyants, il demeurerait une personne vivante, dont il serait capable, par la puissance de l'Esprit, de réaliser et de goûter la présence. Plus encore, en le voyant, les croyants vivraient. Les hommes du monde vivent parce que le monde existe avec ses plaisirs, sa politique et sa vie sociale. Quand ces choses font défaut, la vie du mondain cesse d'avoir de l'intérêt. Le chrétien vit parce que Christ vit, et, de même que Christ, l'objet de notre vie, vit à toujours. Ainsi, la vie du croyant est une vie éternelle. Par l'Esprit, encore, le croyant sait que Christ est dans le Père, que les croyants sont en Christ et que Christ est dans les croyants. Nous savons que Christ a une place suprême dans les affections du Père, que nous avons une place dans le cœur de Christ et que Christ a une place dans nos cœurs. Le monde ne peut ni voir, ni vivre, ni connaître. Il est aveugle aux gloires de Christ, il est mort dans ses fautes et dans ses péchés, il ne connaît pas Dieu. Mais dans la puissance de l'Esprit, il y aura sur la terre une compagnie de personnes qui voient et vivent et connaissent. Elles ont Christ dans la gloire comme objet de leur âme, une vie qui trouve sa joie et son plaisir en Christ et la connaissance de la place qu'elles occupent dans son cœur. Ces versets nous ont montré l'effet normal de la venue de l'Esprit. Les versets 21 à 24 présentent les qualifications spirituelles qui permettraient à chaque croyant d'entrer dans les privilèges qui sont notre part dans la puissance de l'Esprit et d'en jouir. Bien que la chrétienté professante se soit, hélas, gravement éloignée de ces conditions normales, il est réconfortant de voir que ce qui devrait être vrai de l'ensemble peut encore être goûté par l'individu. Aussi est-il important de remarquer qu'à partir de ce point, l'enseignement du Seigneur devient essentiellement individuel. Jusqu'ici, le Seigneur a utilisé le pronom « vous » dans les versets 18 à 20. Maintenant, il va employer des mots tels que « « celui » ou « quelqu'un » dans les versets 21 à 24. L'amour et l'obéissance sont les grandes qualifications nécessaires pour entrer dans ces expériences plus profondes. Le Seigneur a déjà dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il dit maintenant « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ». On a dit à juste titre que le premier verset présentait l'amour comme le ressort de l'obéissance, le second, l'obéissance comme la preuve de l'amour. Toute expression de la pensée du Père était un commandement pour Christ, et de la même manière, toute expression de la pensée de Christ est un commandement pour celui qui l'aime. Celui qui aime Christ sera aimé du Père et de Christ. Il fera d'une façon particulière l'expérience de l'amour des personnes divines. C'est à de telles que le Seigneur se manifestera. Jude, non pas l'Iscariote, intervient alors avec sa question « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» L'esprit rempli de pensées et d'espérances juives, Jude est déconcerté par ses communications. Ne réalisant pas le changement qui allait se produire et s'accrochant encore à l'idée d'un royaume visible, il n'arrive pas à comprendre comment celui-ci peut s'établir si le Seigneur ne se manifeste pas au monde. Les frères de Jésus, selon la chair, avaient une pensée analogue quand ils disaient « Montre-toi au monde toi-même » chapitre 7, verset 4. Maintenant encore, par la même ignorance de l'appel de l'Église et du caractère du jour dans lequel nous vivons, il existe beaucoup de vrais chrétiens qui disent sous une quantité de formes différentes au Seigneur « Montre-toi au monde toi-même ». Ceci ferait volontiers de Christ un chef d'activité philanthropique et le centre de grands mouvements pour l'amélioration du monde. Il cherche à ramener Christ dans le monde, ne saisissant pas que l'Esprit de Dieu est venu pour tirer les croyants hors du monde et les conduire vers Christ dans le ciel. À première vue, la déclaration du Seigneur paraît ne pas vraiment répondre à la question posée par Jude. Le moment d'exposer pleinement le caractère céleste du christianisme n'était pas encore venu. Néanmoins, la réponse du Seigneur redresse la pensée erronée des disciples. Jude pensait à une manifestation visible devant le monde. Le Seigneur parle d'une manifestation à un individu. Jude pense au monde. Le Seigneur parle de quelqu'un. Le monde avait rejeté le Seigneur, et le Seigneur en avait terminé avec le monde comme tel. Désormais, il serait question d'individus tirés hors du monde par la puissance d'attraction de celui auquel l'amour liait leur cœur. Dans sa réponse, le Seigneur développe cette vérité. Non seulement celui qui aime le Seigneur gardera ses commandements, comme cela a déjà été dit, mais il gardera ses paroles. C'est plus que ses commandements. Ceci exprime sa pensée quant aux détails de notre marche. Sa parole, comme le verset suivant nous le dit, n'est pas simplement la sienne propre, mais celle du Père qui l'a envoyée. Elle déclare tout ce qu'il est venu révéler du cœur du Père et des conseils du Père pour le ciel et le monde à venir. Ses commandements jettent une lumière nécessaire sur notre chemin. Ses paroles éclairent l'avenir glorieux en révélant les conseils du cœur du Père. Par conséquent, l'attachement à ses paroles prépare la place pour le Père. Ainsi, le Seigneur peut dire maintenant « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Les premiers mots des versets 25 et 26 introduisent un nouveau sujet dans cette partie des communications du Seigneur. Il a placé devant nous les expériences, qui seraient la part normale des croyants par l'Esprit, versets 18 à 20, puis ce que pourrait réaliser chaque croyant individuellement, versets 21 à 24. Le Seigneur parle maintenant de la venue du Saint-Esprit plus spécialement en relation avec les onze. Pour la première fois, le Consolateur est appelé expressément l'Esprit-Saint. Il est parlé de lui comme d'une personne divine qui sera envoyée par le Père au nom de Christ. Venir au nom de Christ nous indique qu'il vient pour représenter les intérêts de Christ pendant son absence. Il n'est pas là pour exalter les croyants, pour les élever ici-bas, ni pour promouvoir leurs intérêts terrestres. Sa seule affaire, dans un monde qui a rejeté Christ, c'est d'attirer à Christ, de rassembler hors de celui-ci un peuple pour Christ, d'exalter Christ. Au cours de ces dernières communications, nous verrons que l'Esprit s'occupe des intérêts de Christ de trois manières. Premièrement, dans ce chapitre, il éveille nos affections pour Christ. Deuxièmement, au chapitre 15, il ouvre nos bouches en témoignage pour Christ. Troisièmement, au chapitre 16, il nous soutient face à l'opposition du monde en plaçant devant nous les conseils du Père pour le monde à venir. Ici, la grande œuvre de l'Esprit est de nous occuper de Christ lui-même. L'Esprit Saint éveille nos affections pour Christ de deux façons. D'abord, le Seigneur dit aux onze : Lui vous enseignera toutes choses. Les toutes choses du verset 26 sont en contraste avec ces choses du verset 25. Le Seigneur avait parlé de certaines choses, mais il en existait d'autres se rattachant à la gloire de Christ qui dépassaient la compréhension des onze à ce moment. Le Seigneur était limité dans ses communications par la capacité spirituelle restreinte des disciples. La venue de l'Esprit entraînerait une compréhension spirituelle accrue qui lui permettrait de communiquer les « toutes choses » liées à Christ dans la gloire. Secondement, le Seigneur peut dire « L'Esprit vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites ». Non seulement il révélera les choses nouvelles concernant Christ dans sa position nouvelle, des choses qui nous transportent jusque dans la gloire éternelle, mais il rappellera les communications pleines de grâce faites par Christ pendant son séjour sur la terre. Tout ce qui est de Christ, passé, présent et futur, est infiniment précieux. Rien de ce qui est de lui ne sera perdu. Combien il était important que les paroles du Seigneur soient rappelées par une personne divine à ceux qui, par leurs propos et leurs écrits, auraient à instruire les autres. Pour nous rapporter ces paroles, ils ne sont pas laissés à leur propre mémoire imparfaite et défaillante. La communication qu'ils feraient des paroles du Seigneur aura la perfection absolue de celui qui les rappelle sans aucun mélange de faiblesse humaine. Avec les versets qui précèdent, le Seigneur a clos le ministère de grâce qui met les siens en relation avec les personnes divines. Ce ministère d'encouragement et de consolation, cette communion avec les personnes divines, prépare les disciples au départ de celui qu'ils aiment. Aussi le Seigneur peut-il parler plus librement de son départ prochain dans les derniers versets. Mais s'il s'en allait, il laisserait sa paix à ses disciples. Dans les circonstances extérieures, il était l'homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. De tous côtés, il avait à rencontrer la contradiction des pécheurs, mais, marchant dans la communion avec le Père et dans la soumission à sa volonté, il jouissait toujours de la paix du cœur. Cette même paix serait la part du croyant s'il entretenait une telle communion avec les personnes divines et se laissait contrôler par l'Esprit au point que sa volonté soit mise de côté. Au milieu d'un monde agité, le cœur du croyant serait gardé par la paix de Christ. Ce serait une paix partagée avec Christ, car en donnant la paix à ses disciples, il ne donne pas comme le monde qui doit se défaire de ce qu'il donne. En outre, si le Seigneur s'en allait, ce n'était que pour un temps, car il reviendrait. Dans l'intervalle, l'amour désintéressé se réjouirait de ce que son chemin de souffrance était terminé et de ce qu'il s'en allait au Père. Le Seigneur les prévient clairement de son départ, afin que, lorsqu'il se produirait, leur foi ne soit pas ébranlée. Désormais, il ne parlerait plus beaucoup avec eux, car le chef de ce monde venait. Cela signifiait que le dernier grand conflit qui annulerait la puissance de Satan allait s'engager. Le triomphe sur Satan était assuré, car le diable n'avait rien en Christ. Sa mort ne serait pas le résultat de la puissance de Satan, mais l'expression de l'amour de Christ pour le Père. Son obéissance parfaite au commandement du Père, son obéissance jusqu'à la mort, est la preuve éternelle de son amour pour le Père. Après ces paroles qui témoignent de son amour pour le Père et de son obéissance, le Seigneur met fin à cette portion de ses entretiens en disant « Levez-vous, partons d'ici ». Par amour pour le Père, il s'avance pour faire la volonté du Père. Mais il s'associe ses disciples. Le moment viendra où, comme le Seigneur l'a déjà dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » mais il reste encore quelques pas qu'ils peuvent faire avec lui, même s'il s'agit, quant à eux, de pas chancelants. Ainsi, ils quittent ensemble la chambre haute et sortent dans le monde extérieur.